Je travaille depuis un peu plus de 25 ans sur les relations entre les sociétés et l'environnement d'une manière générale, c'est-à-dire bien avant que ce soit à la mode, on va dire. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement en tant que socio-anthropologue, ce sont d'une part les représentations qu'ont les sociétés de leur environnement, les pratiques auxquelles elles s'adonnent sur cet environnement, mais aussi les contradictions qui émergent forcément des situations contemporaines ou des situations un petit peu difficiles auxquelles sont confrontées parfois les populations, on va dire, autochtones, pour faire simple. Un petit résumé, j'ai fait mes études en France d'une part, et d'autre part, j'ai refait un PhD en Australie, où j'ai fait un terrain d'un peu plus de 2 ans chez les aborigènes dans le nord-ouest de l'Australie. Et ensuite, donc, j'ai rejoint l'IRD, qui à l'époque s'appelait l'Orstom, et j'ai effectué 4 grands séjours, à part l'Australie, donc 3 grands séjours à part l'Australie. Le premier en Thaïlande, où j'ai travaillé sur les relations entre les populations minoritaires de montagne et puis les programmes de développement pour les changements agraires, on va dire, pour faire simple. Ensuite, donc, à Madagascar, où j'ai travaillé, j'étais responsable d'un programme qui s'appelait Déforestation et Société Paysanne à Madagascar, principalement dans le sud-ouest de l'île. Et de 2002 à 2007, la dernière affectation, j'étais au Laos, encore une fois avec des populations minoritaires montagnardes, pour voir les impacts des politiques, nouvelles politiques environnementales et nouvelles politiques, on va dire, forestières, impact sur la vie et les pratiques de ces populations. Donc aujourd'hui, on va faire un voyage un petit peu... C'est un petit peu dommage, peut-être qu'on finisse sur ce... sur cette conférence, parce que c'est pas une situation très rose, on va dire, sans faire de mauvais jeu de mots entre l'île verte et l'île rouge. Mais disons que un des principaux problèmes, en tout cas à Madagascar, c'est les questions de déforestation. Donc pourquoi ce titre? Parce que pendant longtemps, là, il y a une très grosse controverse entre les botanistes, entre savoir si Madagascar était, oui ou non, à l'époque ancienne, couverte entièrement de forêt, ou s'il existait déjà des zones de savane. Donc pour les gens qui ne savent pas, Madagascar, qu'on appelle aussi souvent la Grande Île, ou l'île Rouge maintenant, est dans l'océan Indien, fait partie donc de l'ensemble des Mascareignes, et maintenant dépend de la commission de l'océan Indien, qui regroupe Seychelles, Comores, l'île de la Réunion, et Maurice et Madagascar. Donc c'est un ensemble maintenant, qui fonctionne un petit peu en synergie en ce qui concerne les questions d'environnement notamment. Donc pendant des milliers d'années, l'île était couverte de forêts, et donc la grosse controverse, c'est est-ce que l'homme, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé quand les proto-malgaches, on utilise ce terme parce qu'il y a eu vraisemblablement plusieurs vagues de migration, mais il faut savoir que si Madagascar s'est détaché d'un ensemble, d'un grand continent, qu'on appelle le Gondwana, si Madagascar s'est détaché il y a à peu près, je crois, 300 millions d'années, quelque chose comme ça, l'apparition de l'homme est très récente à Madagascar. C'est entre 2000, 2500 ans, on dit maintenant, on a des données un peu plus récentes. Donc c'est effectivement très récent. Et à partir du moment où l'humain arrive sur un domaine, un lieu qui a été pendant très longtemps... intact de tout, préservé de tout contact humain, ben les impacts vont être effectivement beaucoup plus forts, surtout dans des régions fragiles comme c'est le cas du sud et du sud-ouest de Madagascar. Donc l'homme unique responsable, on dit oui et non, parce que maintenant des recherches qui ont été faites en utilisant à la fois le carbone 14, donc, que vous connaissez sûrement, qui permet de dater l'ancienneté des résidus, mais il faut trouver des résidus analysables, des fossiles ou des ossements ou des restes de nourriture, des choses comme ça, mais aussi avec du carbone 13 qui lui permet de différencier dans les cendres si on a affaire à des ligneux, donc à des arbres, ou si on a affaire à des non-ligneux, donc plutôt de la savane. Et ces recherches ont montré que, tout comme sur le Kenya, qui est à peu près en face de Madagascar, il y a eu des très grands feux donc vraisemblablement d'origine naturelle, puisqu'il n'y avait pas encore d'humains, il y a à peu près 10 000 ans. Donc sur des zones, on sait maintenant que quand les proto-malgaches sont arrivés, il y avait déjà d'assez importantes zones de Madagascar qui n'étaient pas couvertes de forêts. Alors, on a trouvé, bien entendu, dessous ces savanes de la forêt, ce qui est logique, puisque quand il y a le feu, en principe, la forêt disparaît, repousse souvent des non-ligneux, donc d'autres types, des graminées, des choses comme ça. Mais aussi l'inverse, qui était beaucoup plus intéressant, à savoir que sous des forêts qui semblaient anciennes, et bien, elles n'étaient pas si anciennes que ça, et en dessous, on a trouvé des graminées. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un potentiel de régénération de forêt à partir d'endroits où il n'y avait que de la savane. Donc cet isolement de Madagascar, ben, il a duré très longtemps, il a permis un développement d'une faune et d'une flore avec un très fort taux d'endémicité, mais en même temps cette très grande fragilité que j'évoquais tout à l'heure du fait de l'absence des humains. Alors un très fort taux d'endémicité, il y a tout un tas d'animaux bizarres qu'on ne trouve pas ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de flore qui n'existe pas. Et il y a notamment dans le sud de Madagascar des énormes avennes, c'est-à-dire ce sont des cercles à peu près de la forme d'un cercle, qui se sont affaissés il y a à peu près 6 ou 7 000 ans. Ça fait entre 6 à 800 mètres de diamètre. Et ça s'est affaissé de plusieurs centaines de mètres. Et au fond, on a donc de la microfaune et de la microflore qui existaient avant et qui est très ancienne et sur lesquelles, à l'heure actuelle, il y a des études de botanistes et aussi de zoologues. Donc cette endémicité est, je crois, plus de 60 ou 70% et on n'a encore pas terminé de faire cet inventaire, ni en ce qui concerne, surtout en ce qui concerne la flore. Pour la faune, les humains n'ont quasiment pas connu cet oiseau qui s'appelle l'épiornis, qui est à peu près deux fois de la taille d'une autruche. Je me souviens qu'on en avait un, il y en a un dans le musée ici à Marseille. Muséum d'histoire naturelle. Mais par contre, le grand Didier, qui est un des premiers explorateurs français dont le nom est extrêmement associé à la découverte de l'île, lui dit avoir trouvé des ossements assez récents d'un autre vestige du règne animal de Madagascar, qui est aussi endémique, qui est l'hippopotame nain, qui était beaucoup plus petit que l'hippopotame d'Afrique, et qui vivait, contrairement à l'hippopotame d'Afrique, qui vivait en zone de forêt, en zone assez humide. Donc cette île verte, peu importe qu'elle ait été complètement verte ou déjà un petit peu verte et rouge quand les humains sont arrivés, mais les humains, eux, ils l'ont façonnée, ils s'y sont adaptés en dépit de sévères conditions, contraintes qu'on appelle pédoclimatiques. Alors pédo, ça c'est relatif au sol, et climatique, c'est le climat. Il faut savoir qu'effectivement, les sols de beaucoup de pays tropicaux sont des sols rouges, hein, ce qu'on appelle souvent des sols latéritiques, de la latérite ou des sols ferralitiques, c'est-à-dire donc avec du fer, ou de la latérite, qui sont, alors si j'ai bien appris la leçon avec mes collègues pédologues quand j'étais sur le terrain, ce sont en fait des sols qui sont le fruit d'un climat tropical humide sous couvert forestier. Donc on sait que où on trouve de la latérite, il y a très 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 longtemps de la forêt. Ce sont par contre des sols très pauvres et qui s'épuisent extrêmement vite. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand les hommes sont arrivés? Des phases de déforestation sûrement très intenses sur les hautes terres de Madagascar. Alors pour ceux qui connaissent, presque la totalité des hautes terres de Madagascar sont transformées avec des systèmes de rizières très anciens et qui fonctionnent. Donc une reconversion et une déforestation, certes, mais une utilisation par les humains sur le long terme. Ce n'est pas une déforestation pour détruire et n'avoir rien du tout. Donc une transformation, je dirais, plutôt une transformation ou une adaptation des paysages et de la forêt pour l'utilisation des humains. Donc ce système qui est mis en place est la riziculture irriguée sur les hautes terres, contrairement au système dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, qui sont ceux du sud et de l'ouest de Madagascar. Donc cette construction des territoires par les hommes à Madagascar, c'est fait effectivement aux dépens de la forêt, donc de la déforestation, parfois abusive, dont on trouve effectivement des traces, alors quand on fait des recherches de type, on va dire, plutôt archéologique, mais aussi au fil de la littérature coloniale, ou à la fois dans les descriptions, soit au début de la période coloniale, soit durant la colonisation française, jusque donc dans les années 60, on trouve des descriptions soit par les militaires, mais aussi par l'équivalent de l'ONF qui était donc déjà installé là-bas, les exportations de bois et des phénomènes qui semblent récurrents, les grands feux à Madagascar et une déforestation quasi constante et déjà qualifiée de galopante dans les années 30 ou 40. Et quand on connaît un petit peu la culture malgache, je devrais dire les cultures malgaches, parce qu'officiellement il y a 19 groupes ethniques à Madagascar, très différents, avec des langues plutôt qui sont des formes maintenant dialectales, on va dire une forme dialectale en linguistique, c'est quelque chose qui n'a pas plus de 30% de différence de vocabulaire avec la langue mère, donc une forme dialectale du malgache, qui lui-même a beaucoup d'emprunts à la langue arabe, à certaines langues bantoues et à des vocabulaires d'Inde du Sud. Par exemple, les jours de la semaine à Madagascar se disent Alamadi, Alatadi, qui sont les noms arabes, puisqu'il y a eu des contacts très importants et avec l'arrivée des commerçants au 7e ou 8e siècle. Par contre, l'islam n'a pas du tout pris à Madagascar, sauf dans une très très petite région. Voilà. Donc, les cultures malgaches, j'en reviens à ce que j'essayais de dire tout à l'heure et j'ai un peu dévié. Toutes les cultures malgaches ont un profond respect à la forêt. Alors, à la fois un respect parce que c'est vraiment considéré comme l'œuvre d'un dieu suprême et unique en quel croient quasiment toutes les populations de Madagascar et qui s'appelle Zanahari. Mais aussi une multitude d'esprits et de personnages mythiques qui peuplent la forêt, qui sont toujours prêts à vous faire des pièges, à vous embêter, voire à vous causer des soucis beaucoup plus sérieux. Notamment, on parle d'esprits qui peuvent vous envoûter, vous faire mourir, etc. Donc tout un tas de comportements vraiment très distants et très respectueux vis-à-vis de la forêt. Donc la forêt, l'œuvre du Dieu suprême, est l'émanation de la surnature, donc, et une multitude de cultes et de rituels y sont associés. Alors que dans quasiment toutes les sociétés malgaches, il y a un certain type de comportement à avoir ou à ne pas avoir quand on évolue en milieu forestier. Donc je ne vais pas vous en faire la liste, ça serait un petit peu fastidieux. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est assez proche de ce qu'on trouve dans d'autres civilisations. Vous savez, les humains, les référents qu'ils ont, la lune, le ciel, etc., les animaux, font qu'on retrouve un certain nombre d'éléments communs sur l'ensemble des sociétés, ce qui ne veut pas dire que les sociétés sont les mêmes, mais que le référent, lui, humain, s'appuie sur des modèles qui lui permettent d'interpréter les choses d'une façon un petit peu, on va dire, similaire. Donc il y a toujours un certain nombre de comportements à faire, des choses à dire, à ne pas dire. On ne parle jamais de la direction vers laquelle on souhaite aller, puisque si les esprits de la forêt vont l'entendre, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous en détourner, donc on risquera de se perdre. On ne doit pas, en principe, utiliser le dialecte qui n'est pas celui associé au territoire dans la forêt dans laquelle on se trouve. Et il y a ensuite des tabous alimentaires qui concernent certains animaux, certaines espèces animales ou certaines espèces végétales. Des périodes de la vie d'un homme ou de la vie d'une femme, c'est par exemple juste après avoir donné naissance à un enfant, une femme ne peut pas aller dans n'importe quelle partie de la forêt, etc., etc. Donc un espace codé, codifié et qui est à la fois bénéfique puisqu'il représente non seulement la surnature et la puissance de Dieu, mais aussi une réserve inépuisable de ressources, donc non seulement tout ce qui est ce qu'on appelle les produits non ligneux, donc tout un tas de racines qu'on va trouver, des végétaux qu'on va planter ou qu'on va collecter et qu'on va ensuite domestiquer, mais aussi la chasse, la pêche quand il y a des rivières en milieu forestier, etc., etc. Donc d'une manière générale, l'accès, comme dans toute les sociétés quasiment, mais là on parle de Madagascar, donc les sociétés qui sont considérées comme étant autochtones, c'est-à-dire celles dont on estime qu'elles sont, que leurs ancêtres étaient les premiers occupants de l'endroit, ce sont elles qui font les intermédiaires entre le monde de la surnature et les étrangers du territoire, c'est-à-dire qu'il paraît inconcevable d'aller à Madagascar dans une forêt sans être accompagné par quelqu'un de l'endroit. D'abord pour des questions pratiques, parce que c'est sûr qu'on aurait beaucoup de chances de se perdre, mais aussi pour des questions de respect par rapport aux ancêtres de cette personne et aussi aux esprits. Donc, la médiation de la population autochtone est quelque chose de fondamental dans l'installation ou dans les activités en forêt d'un groupe ethnique précis à Madagascar. Et je vais parler un petit peu rapidement, je vais évoquer la période coloniale. Donc là aussi, beaucoup de déforestation initiée par le colon pour l'exportation des bois précieux. Entre les années 30 et les années 40, très très forte exportation de palissandre à destination du Japon, de l'Australie, de l'Afrique du Sud. Une déforestation faite aussi donc pour faire des grandes plantations ou des grandes exploitations. Et là, on commence à toucher du doigt un petit peu des événements particuliers, à savoir que, comme partout ailleurs, j'allais dire, mais à Madagascar, d'une manière générale, les gens qui travaillaient, les malgaches qui travaillaient sur une plantation, n'étaient jamais ceux de la région. On faisait toujours venir des gens d'ailleurs, puisque ceux de la région n'étaient pas prêts à être, je mets des quatre guillemets, à être esclaves, enfin à travailler pour quelqu'un d'autre sur leur propre terre. C'est inconcevable. Donc on fait venir des gens d'ailleurs, qui vont être payés ou pas payés, peu importe, le débat n'est pas là, mais qui, eux, n'ont pas les mêmes tabous, j'allais dire, ou les mêmes restrictions de comportement en ce qui concerne la forêt. Donc on utilisait ces gens-là pour faire la déforestation, ensuite travailler sur la plantation. C'est un élément important, puisque, après l'indépendance de Madagascar, certains de ces groupes, donc, qui avaient été attirés par des colons sur une zone de migration, on va dire, pour faire simple, se sont sédentarisés et ont récupéré eux-mêmes la ferme. Donc c'est ce qui a ensuite posé des problèmes avec les autres populations. Mais j'anticipe un petit peu. Et on remarque d'une manière générale, quand on s'intéresse à l'histoire de Madagascar, donc il y a deux endroits, qui n'est pas très loin d'ici. Vous avez les archives coloniales à Aix, d'une part, et les archives militaires à Paris, au fort de Vincennes. Donc ce sont deux endroits où on peut trouver pas mal d'informations. Et on trouve, d'une manière générale, une concordance entre des périodes de troubles sociaux, et c'est toujours des moments, des insurrections, des périodes de troubles sociaux, c'est toujours des mêmes périodes où il y a des crises environnementales, des très grands feux ou de la déforestation, des choses comme ça. Donc c'est un élément aussi à garder à l'esprit, que Madagascar, d'une manière générale, les phénomènes, les crises sociales sont très souvent liées à des crises environnementales. Alors bon, c'est un peu comme la poule et l'œuf, on ne sait pas qui est celui qui est antérieur à l'autre, mais ce sont des éléments vraiment importants. On va laisser de côté la période coloniale, on pourra en parler si certains le souhaitent après, mais on va voir donc ces phénomènes de déforestation d'une manière un petit peu plus récente. Donc Madagascar subit depuis 25, à peu près même 30 ans, une crise écologique qui est particulièrement grave, notamment dans le sud et le sud-ouest du pays, qui reçoivent beaucoup moins d'eau et qui ont des climats beaucoup plus rigoureux que le reste, que l'Est notamment, qui lui est exposé au vent marin et donc à une pluviométrie beaucoup plus conséquente, des sols plus profonds, comme disent les pédologues, donc des sols qui permettent une repousse plus rapide et des environnements moins fragiles. Donc, une crise vraiment grave depuis une trentaine d'années, un couvert forestier qui s'amenuise d'année en année, et si on croit les chiffres, mais c'est toujours très délicat les chiffres en ce qui concerne les superficies de forêts naturelles, parce que d'abord, qu'est-ce qu'une forêt naturelle, Il y a beaucoup de mes collègues écologues et botanistes qui disent qu'il n'y a quasiment pas de forêt naturelle dans le monde, puisque l'humain est intervenu quelque part, et même si je traverse une forêt et que je cueille une brindille d'arbre ici et que je la replante plus loin, je vais avoir une action sur la biodiversité, et donc la forêt n'est plus naturelle, considérée comme naturelle. Mais bon. Et ensuite, vous savez qu'on calcule, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais on calcule les surfaces qui restent, notamment au niveau de la forêt ou les surfaces de culture, à partir d'images satellitaires. Donc on prend des images avec des satellites. Et ensuite, il y a des gens qui font une vérification au sol. Donc la vérification au sol, selon qu'on soit... les États vont avoir plutôt tendance à montrer qu'il y a moins de déforestation
parce que on a des aides pour reforester, etc. Donc on va dire, ben oui, oui, cette grosse tâche là, c'est effectivement de la forêt, alors que ça peut être très bien une plantation d'EVA. Il y a le cas à l'heure actuelle au Laos, en Thaïlande, où on inclut dans le couvert végétal forestier toutes les plantations. Donc ça n'a pas de sens, je veux dire, bon, ça ressemble à rien. Ou si on est sérieux, on dit non, là c'est vraiment une forêt dégradée qui ne peut pas être considérée comme de la forêt, donc on n'apprend pas ça en compte. Donc il y a une grande variation des chiffres à l'autre, mais ce qui ressort de toute façon, c'est une diminution assez conséquente. Donc on estime qu'il y avait à peu près 15 millions d'hectares dans les années 50, il en restait 10 au début des années 90, et en 2005 on est à un peu plus de 9 millions d'hectares. Donc une réduction de plus de 100 000 hectares par an. Alors là aussi, c'est très compliqué. Est-ce que ce qui est brûlé vraiment chaque année est effectivement de la forêt ou un recru forestier de quelques années? Donc l'impact sera moins important aussi. En ce qui concerne l'Ouest et le Sud-Ouest, qui sont donc les régions où j'ai travaillé, surtout le Sud-Ouest, la détérioration de la forêt a été encore plus rapide et est en accélération constante. Alors pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a une détérioration récente des conditions climatiques. Il y a un assèchement à Madagascar depuis une soixantaine d'années. Donc cet assèchement fait que les populations les plus au sud de l'île, qui sont deux groupes ethniques, un s'appelant les Tandjoui, les autres les Maafal, sont des gens qui n'arrivaient plus à survivre dans leur zone. Donc, grands éleveurs, donc sur pâturage, etc. Donc sont remontés vers le sud-ouest et l'ouest du pays, déjà à la période coloniale. Et se sont installés dans des secteurs de migration qui n'étaient pas les leurs, où ils ont commencé à exploiter le milieu. Donc un afflux de migrants, assez conséquent, surtout à partir des années 70-80. Et là, c'est important, c'est que ni dans le sud-ouest, ni dans l'ouest de Madagascar, ni même dans le sud, n'existait de société, vivant en milieu forestier. Ça concerne l'est de Madagascar, où on a vraiment de la forêt tropicale, comme on se la représente, très, très verdoyante, avec des arbres énormes, etc. Là, il existe des populations qui vivaient en milieu forestier et qui ont une gestion, je dirais, ou en tout cas une utilisation de la forêt sur le long terme. Du côté de l'ouest de Madagascar, la forêt n'était pas un élément qui était inclus dans le système économique. C'était un endroit où on avait plein d'esprit, où si on n'était pas du coin, on se faisait tuer par les esprits, on devenait fou, il se passait plein de choses pas sympathiques. Et c'est là que, durant la période coloniale, ou entre les périodes de conflit entre différents groupes ethniques, c'est là que les gens cachaient leur bétail ou se réfugiaient en cas de crise. Donc, plutôt une zone de refuge, mais une zone dangereuse, enfin toujours cette ambivalence. Donc, la forêt dans l'ouest et le sud-ouest, de plus en plus attaquée, dégradée par des feux de brousse, qui constituent donc une manière courante, une gestion de l'espace pastoral. Vous savez aussi peut-être que d'une manière générale, l'élevage associe à l'élevage la pratique de grands feux, qui permettent d'une part de conserver le troupeau sur un itinéraire particulier pendant la transhumance. Comme ça, si je brûle sur une très grande bande des herbes, ce qui repousse très vite avec les premières pluies, ça va être sur une portion particulière, peut-être d'une trentaine ou quarantaine de mètres de large sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc le bétail va suivre ça. Ou alors, ça permet aussi de foutre le feu dans le champ du voisin si on a envie, ou de foutre le feu chez les concurrents, etc., etc. Ce qu'on appelle aussi, je reviens un petit peu en arrière, dans la période coloniale, la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que les grandes périodes de feu sont toujours liées aussi à des histoires de conflits fonciers. Donc, gestion de l'espace par le feu, d'une manière générale pour les terrains de parcours, mais aussi vis-à-vis de la forêt. Alors pourquoi? Parce que la forêt, et surtout la forêt sèche de l'ouest de Madagascar, le feu, une fois que c'est rentré dedans, il va aller de plus en plus profondément. Et une fois que la forêt est devenue autre chose que de la forêt, c'est-à-dire qu'il repousse quelques jujubiers et de l'herbe, ça devient un terrain de parcours. Et moi qui suis un éleveur, ce qui m'intéresse, c'est un terrain de parcours, c'est pas la forêt. À force de répéter des feux de brousse incessants, de recouper tout ce qui repousse, il se forme ce que les pédologues appellent un cuirassement des sols, donc un sol qui est durci et qui évite ensuite aux plantes de repousser, en plus, tous les phénomènes qu'on connaît bien aussi d'érosion, soit par le vent, donc d'érosion éolienne, soit par les pluies, puisque quand vous avez les sols qui sont dénudés, ils durcissent, ils sèchent au soleil, ensuite une très forte pluviométrie, enfin en tout cas des orages extrêmement violents, et au lieu de pénétrer dans le sol, ils ruissellent, ça ouvre le sol et ça l'éclate. C'est des phénomènes qu'on connaît assez bien, qui sont passés d'ailleurs dans les termes de géographie physique. On a utilisé les termes malgaches pour certains phénomènes de lavement des sols, enfin, qu'on appelle des sacs à sacs, qui est d'écroulement comme ça du haut vers le bas des sols pentus. Donc quand on survole Madagascar, on voit effectivement cette différence entre une côte ouest et, alors il faut vous représenter donc l'île un petit peu en longueur, puis sur le premier tiers, sur la droite, donc vers la partie est, une chaîne montagneuse qui fait la différence entre le climat tropical humide et puis ensuite les hautes terres au milieu, et sur la partie ouest et vers le sud, des conditions beaucoup plus sèches, avec des sols très peu profonds et très perturbés. Ce sont principalement ce qu'on appelle des sables roux, et non pas vraiment des sols latéritiques comme sur les hautes terres. Donc, une différence de climat, de pluviométrie, une différence de forêt. On a de la vraie forêt tropicale comme on l'imagine ou comme on a pu la voir reproduite dans Avatar, par exemple. Et de l'autre côté, pas du tout le même style de forêt, puisque la forêt de la côte ouest, enfin la forêt du sud-ouest de Madagascar, est ce qu'on appelle une forêt dense, sèche, caducifoliée, donc elle perd ses feuilles. Ça a vraiment l'air d'un truc quasiment mort avant la saison des pluies, et après la saison des pluies, ça pète de toutes les couleurs avec des tas de fruits, des tas d'animaux qui apparaissent de partout. Enfin, c'est vraiment un enchantement, un émerveillement de voir, quand il reste de la forêt, de la voir après la saison des pluies. Donc, on va parler dans le sud-ouest de ce qui s'appelle les Tumpun Thani. Donc, Tumpun, c'est celui qui est propriétaire d'eux, on va dire, pour faire simple. Thani, c'est la terre à Madagascar. Par exemple, Thani, les Français qui sont nés là-bas, on dit les pieds noirs pour l'Algérie, là-bas, on appelle les Zanatani, Zana, les enfants de la terre. Zazatani, en fait, les enfants de la terre. Voilà. Donc, dans le sud-ouest de Madagascar, la logique traditionnelle veut que les droits fonciers d'un groupe sur son espace, sur son territoire, donc tout ce qui est inclus dans son territoire, y compris donc la forêt et les ressources de la forêt, on suppose qu'ils ont été légitimés il y a très longtemps. Donc cette légitimation s'obtient à l'installation des humains, des premiers humains qui font un pacte, si vous voulez, avec les esprits du territoire, on va dire, dont la présence est antérieure à celle des humains. Et la légitimation de ce droit se voit grâce à un équilibre stable entre donc les forces surnaturelles et les humains. Alors cette stabilité, bon, parce que votre village est beau, les troupeaux sont nombreux, les récoltes sont bonnes, etc., tout va bien. Mais cette légitimité initiale n'est pas nécessairement durable, donc c'est très compliqué, il faut sans arrêt la remettre en cause. Donc, à certains endroits du territoire, vous avez des sculptures ou des arbres témoins qui marquent les endroits importants du territoire auxquels il faut faire des cérémonies d'une manière régulière, des sacrifices dans le passé de zébus et maintenant beaucoup moins dispendieuses. Et il faut prouver que ce territoire est le vôtre. Donc pour le prouver, très souvent ce que font les gens, c'est ce qu'on appelle la toponymie, c'est-à-dire de nommer les différentes parties du territoire avec des noms de mon propre langage qui ont tout un sens. Donc il faut marquer son territoire et en avoir une gestion qui est considérée comme normale. Donc marquer le territoire, ça se fait comment à Madagascar? Ça se fait d'une part dans le sud-ouest, c'est pas partout, mais dans le sud-ouest de Madagascar, on récupère les cordons ombilicaux des enfants qui vont naître et le placenta, ils vont être mis dans certains arbres ou dans des mares d'eau quasi permanente. Et ensuite, on va marquer l'espace avec les tombeaux. C'est très important le tombeau à Madagascar. D'une manière générale, quand les gens se rencontrent, on dit d'où tu viens, et la deuxième phrase, c'est où sont enterrés tes ancêtres, où sont tes tombeaux, en gros. On voit d'où vient la personne et quel statut elle peut avoir. C'est pourquoi il est vraiment important, et ce que j'évoquais tout à l'heure, les migrants, pendant très longtemps, les migrants retournaient être enterrés, étaient enterrés chez eux, en terre, au village d'origine. On restait, il arrivait qu'on garde parfois le corps du défunt pendant un certain temps, quand on pourrait avoir accumulé assez d'argent pour retourner au pays, faire les cérémonies nécessaires, mais l'enterrer près d'un poteau cérémoniel qui s'appelle le Hazumanga. Hazu, c'est bois, et manga, c'est bleu. Donc c'est un poteau qui est au milieu d'un village et qui symbolise la cohésion, l'unité de ce village, l'unité du lignage. Et à côté, vous avez un autre poteau qui s'appelle, lui, Azumbut, qui est Azub, le bois, toujours pareil. Mbut, c'est le nom, on va dire, pour faire simple, du pénis, mais des enfants. Et c'est devant ce poteau que les petits garçons sont circoncis et donc rejoignent la famille de leur père. Donc très souvent, on retourne au village d'origine, à celui où on a été circoncis, auquel on appartient, pour être enterré, avec des cérémonies très dispensieuses. Par contre, les tombeaux, vos tombeaux dans une terre, vous permet de revendiquer, de dire, ben voilà, je suis là depuis tant de générations, regarde, c'est machin, machin. Et là, on met les placentas de tous ceux qui sont nés, là, c'est les cordons ombilicaux, etc., etc. Donc, on est les propriétaires de cet espace. On le gère, on est légitimement reconnu, et la gestion qui elle est une gestion bonne fait que je suis riche, et pour prouver que je suis riche et que je suis la bonne personne, je dois redistribuer cette richesse à ceux qui viennent chez moi. Donc, là je parlerai un petit peu après des crises sociales écologiques, mais c'est extrêmement important de comprendre que dans le passé, les migrants qui venaient d'une manière individuelle dans les villages, ils étaient mariés, avaient des enfants, mais très souvent le migrant repartait soit pour s'installer ailleurs, soit pour retourner chez lui. Donc il venait une période dans le temps, c'était très souvent un homme qui était marié localement et ensuite qu'on impliquait dans toutes les cérémonies lignagères en lui ponctionnant un petit peu de son bétail dès qu'il en avait accumulé. Donc un très, très bon moyen de contrôle des migrants tant qu'ils étaient un ou deux ou dans les villages. Après, il y a une transformation structurelle de la migration avec des migrations familiales puis de villages, de gens qui se sédentarisent de plus en plus souvent et qui parfois arrivaient quasiment à encercler des villages autochtones et à les chasser de leur endroit, de l'endroit qu'ils occupaient précédemment. Donc je voulais revenir, oui, alors cette gestion normale de la légitimité de mes droits sur un territoire se manifeste par une générosité. Donc je dois faire des cérémonies très ostentatoires, où on va, notamment pour les cérémonies funéraires, vous voyez sur les tombeaux dans le sud de Madagascar, écrit « Pour mon frère, j'ai sacrifié 100 zébus », par exemple. Voilà. Mais comme dans beaucoup de sociétés, encore une fois, on ne vous dit pas combien on en a reçu en échange. Parce que si moi je suis invité à une cérémonie funéraire du frère d'un grand éleveur, je ne vais pas y aller avec un kilo de farine. Hein. Je me ridiculiserai et on me laisserait à peine rentrer. Je vais y aller avec peut-être les deux plus belles bêtes de mon troupeau. Donc voilà, il y a un recyclage, si vous voulez, une redistribution de ces phénomènes qui est assez intéressant. Alors, on a aussi évoqué que le fait, ça permettait de mélanger les races, de faire de la sélection, etc., etc. Mais ça permet aussi de faire circuler les richesses. Donc, très souvent, je suis riche, je suis un grand propriétaire, et ben, je vais prêter 5 têtes de bétail à quelqu'un qui est chez moi, qui est un migrant, qui a eu un décès dans sa famille, qui a besoin de 5 têtes de bétail. Donc, je lui prête, je fais preuve de générosité. Ce que lui n'a pas très bien compris, c'est qu'il vient de signer un contrat de 20 ans pour travailler pour moi. Donc, parce que évidemment, la philanthropie n'est pas vraiment de ce monde. Bon, voilà. Donc, il y a énormément de réseaux de clientèle comme ça, très très insidieux, qui fonctionnent très très bien, et les gens ont des réseaux assez assez complexes pour pouvoir. Ben, on a montré qu'on était généreux pour ça, ou alors pour pour prêter du bétail pour le piétinage des rizières. Moi, j'étais très surpris. J'avais rencontré un grand éleveur à Madagascar, un tout petit bonhomme, qui allait sur un tel le général sous l'époque napoléonienne, allait tous les soirs sur un promontoire à côté de son village et regardait ses troupeaux arriver vraiment de tout l'horizon. C'était, je vous promets, très impressionnant. D'abord, on morcelle le bétail en troupeaux, en petits troupeaux. Il avait donc une vingtaine de mini-troupeaux de 80 à 100 bêtes à peu près. Donc ça arrivait de tous les coins avec la fumée. Vous imaginez le soir, coucher de soleil, les baobabs, là, la fumée qui monte et tout. Donc lui était là, tel le général, en voyant ses troupes, et me disait « Ah, c'est quand même formidable !» Et alors l'œil averti, parce qu'il m'expliquait qu'il regardait vraiment la façon dont marchaient les bêtes. Il me disait « Ah ben là, tu vois, j'ai l'impression qu'il manque une bête. » Alors c'est impressionnant parce qu'on se dit « Comment ce type ?» Mais vraiment, toute l'observation des animaux, etc. Et je lui ai posé une question naïve. Je lui ai dit « Mais jusqu'où mais tes pâturages, ça va où quoi quand même ?» Il me dit « Mais pâturages, c'est jusqu'où mes zébus peuvent aller. » Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, en faisant des enquêtes avec ce monsieur, je discutais donc « Qu'est-ce que tu as en plus ? Est-ce que tu as autre chose ?» Il me dit « Non, non, je cultive quasiment pas de terrain. » Mais je lui dis, mais attends, mais j'ai vu un grenier, il y a des montagnes de sacs de riz. Ah, mais il me dit, mais ça, c'est ce que les gens me donnent parce que je leur prête des bêtes de chez moi pour qu'ils piétinent les rizières. Donc, il a droit à une partie de la récolte. Donc, sans avoir un mètre carré de rizière, c'était un des plus grands producteurs de riz de la région. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on ne donne jamais des bêtes en disant « Tiens, je te prête des bêtes parce que t'es un pauvre type, quoi, t'as pas de quoi travailler. » Non, on lui dit « Écoute, j'ai 5-6 bêtes là qui sont malades, je sais que les terres vers chez toi elles sont meilleures, que l'herbe est bonne, tu peux pas me les garder pendant 3-4 mois, qu'elles se retapent un petit peu. » Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle dans l'élevage, d'une manière générale en agronomie, mais aussi dans les sciences sociales, on appelle ça le confiage. C'est un mode qui existe, qui est assez connu. Et si... on garde des bêtes pendant plus d'un an et qu'il y a des naissances, très souvent, on peut garder, ça existait chez nous aussi, on peut garder la bête. Hop, on saute un petit peu à une période récente donc où Madagascar subit donc, depuis les années 80, en gros, une succession de crises sociales et écologiques qui s'enchaînent les unes avec les autres. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, l'éclatement des groupes sociaux avec une érosion du pouvoir lignager, ce qui affaiblit considérablement le système social et le pouvoir, le leadership des populations autochtones en tout cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on se retrouve avec des zones, des forêts qui sont complètement mitées. Il y a l'extérieur, vous allez en forêt, vous avez l'extérieur de la forêt qui est quasiment intact, et dès qu'on a pénétré pendant une quinzaine, une vingtaine de mètres, paf, on tombe dans des clairières où il y a très souvent du maïs. Mais dans les zones où j'ai travaillé, beaucoup de coton. Alors beaucoup de coton, pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une recrudescence de potamochère, donc le genre de sanglier local qui détruit absolument tout. Donc le coton, au moins, il ne le mange pas. Mais comme me disent justement les gens, nous non plus, on ne mange pas de coton. Donc les gens sont pris dans un cercle un petit peu compliqué, qui est classique, c'est-à-dire que le coton, bah, c'est une grande compagnie internationale qui vend les intrants, qui vend aussi effectivement tous les pesticides qu'il faut balancer par-dessus, et qui rachète le coton, mais qui va le payer 3 ou 4 mois après. Et puis très souvent, quand on le paye, ben, le cours a baissé, et puis ce qu'on a donné avant, ça coûte assez cher, etc. Donc il ne reste que rien, il reste très très peu. Le peu qui reste, les gens n'ont souvent pas assez pour vivre. Donc l'année d'après, qu'est-ce qu'on fait ? On va brûler un petit peu plus de forêt pour agrandir les surfaces. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations assez catastrophiques de disparition complète de pans forestiers. Et en ce qui concerne le maïs, c'est pas tellement mieux, puisque j'évoquais tout à l'heure la région de l'océan Indien. À peu près dans les années, en tout cas, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque où j'étais à Madagascar, donc j'y étais de 95 à 98, 94, 98, pardon. Je suis retourné depuis faire quelques missions. La quasi-totalité du maïs qui poussait sur donc de la déforestation du sud-ouest de Madagascar était exporté à l'île de la Réunion pour l'élevage avicole. Donc vous aviez la France qui payait des experts ou qui donnaient de l'argent pour essayer de comprendre les problèmes de déforestation, et vous aviez la France via l'île de la Réunion qui rachetait le maïs qui lui est poussé sur les forêts qu'on détruisait. Donc c'est assez, oui, toujours un peu les mêmes histoires, mais bon, c'est pour dire que voilà, ça existe pour de vrai. Donc je ferme la parenthèse du maïs. Donc dans la forêt est apparue vraiment comme l'un des derniers espaces à conquérir, à s'approprier pour les migrants, dans la mesure où ben, c'est devenu le maillon faible du foncier, puisque les structures lignagères ont un peu éclaté et qu'il n'y a plus ce contrôle, j'allais dire, cérémoniel et symbolique de la forêt, ben, c'est devenu un endroit d'accès quasiment libre. Et puis en plus, très souvent, on disait aux migrants, ben, allez vous mettre en forêt, puisqu'on pensait très bien qu'ils allaient se faire manger par les esprits ou des choses comme ça. Et il y a eu un phénomène... À la fin des années 70, il y a eu énormément de prospection pétrolière à Madagascar. Donc il y a eu des layons pétroliers qui ont été faits dans toute la forêt du sud-ouest. Donc des énormes layons de 25 à 30 mètres de large et qui traversaient des zones entières de forêt. Et très souvent, dans les récits que n'a récupéré des gens, ils estimaient que tous les esprits négatifs de la forêt avaient eu peur, puisque c'était des grosses machines qui étaient venues et qu'ils n'avaient jamais vu ça et qui s'étaient enfuis, et donc que les esprits négatifs, ou en tout cas les esprits de la forêt, avaient quitté ces forêts suite à l'ouverture de ces layons. Donc un endroit qui n'était plus aussi menaçant que par le passé. Et puis si après tout les blancs s'en étaient sortis, on n'est pas plus bête, on pouvait aussi s'en sortir. Bon. C'est aussi un moyen de faire très rapidement fortune quand on est migrant et qu'on n'est plus dépendant des groupes autochtones. Eh ben, on arrive avec sa famille, on va cultiver, on est vaillant, on va faire du maïs qu'on va revendre assez rapidement parce que le maïs ça pousse vite, ça pousse en 3 mois. On va faire un peu d'élevage, si possible de l'élevage caprin. Alors là aussi c'est une provocation des migrants puisque le caprin, les chèvres sont un animal frappé d'un tabou chez les populations autochtones, qui eux sont des éleveurs de zébus. Et à partir du moment où des chèvres ont marché quelque part, il est inconcevable que mon troupeau de bovins y aille par la suite. Donc il y a eu vraiment des conflits ou des menaces, des avancées des migrants derrière leur troupeau de chèvres. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir des autochtones, si vous voulez, qui vous donnent accès au foncier, vous permettent de vous installer en forêt, vous faites un petit peu d'argent, on vous en ponctionne une partie, vous repartez, ben, les migrants sont arrivés, ont fait de la défriche, ils ont transformé ces forêts en zone quasiment défrichée, parce que très peu de choses repoussent, du jujubier ou de la savane, et ensuite, ils ont fait venir des migrants de leur terre d'origine, qui se sont installés, eux, avec du bétail. Donc, ils ont continué à occuper l'espace. Il n'y a plus le migrant qui s'en va et qui laisse un espace vide. Le migrant conservait l'espace, même déforesté, et où s'installaient d'autres migrants. Donc un processus de savanisation et de conversion de la forêt zone sèche en zone d'élevage. Donc une fuite en avant, vraiment on est dans une spirale de la catastrophe avec des feux de plus en plus importants, on coupe des arbres de plus en plus petits, maintenant on coupe même des repousses de jeunes arbres, les gens puisque, bon, d'une manière générale, il y a aussi des situations un petit peu d'insécurité dans les villes moyennes du sud-ouest de la région, du sud-ouest de Madagascar. Ben, les gens, au lieu d'avoir la maison ouverte, ben, on fait des palissades. Et ces palissades, il faut bien prendre le bois quelque part. Donc on prend du bois qu'on met autour. On fait du charbon de bois. On fait tous ces genres de choses qui fait que la forêt... même si elle avait une infime chance de repousser, n'a absolument pas le temps et les possibilités de le faire. Donc c'est surpâturage, brûlage, recoupe, etc., etc. Donc vous avez à la fois un processus donc, de destruction et un enrichissement de ceux qui en sont responsables. Et c'est là qu'il y a une contradiction de fond avec la perception ancienne de ce milieu. Avant, il fallait la protéger pour s'enrichir et pour montrer qu'on était vraiment... Digne d'être les propriétaires de cette forêt. Maintenant, il suffit de se l'approprier, de la brûler, de planter autre chose à la place, et on gagne de l'argent. Donc c'est très, très compliqué pour les populations d'arriver à rationaliser les situations dans lesquelles elles se trouvent. pour presque terminer, des exemples de plus en plus fréquents de conflits entre populations autochtones et populations migrantes, donc liés à ce qu'on appelle la destruction du milieu, donc la déforestation, mais en même temps la recomposition des groupes sociaux. Ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les changements de modalité de migration, donc des migrations avant qui étaient individuelles et temporaires, qui deviennent des migrations collectives et définitives, et des conflits de plus en plus violents. Moi, j'ai assisté à des situations où les gens disaient, écoutez, si vous dépassez vraiment cette limite-là de territoire, on vient, ça va être la guerre, etc., etc. Ça se passe vraiment jamais, mais bon, il y a des cas où il y a quand même mort d'homme, quoi, on va dire. Et cette grave crise sociale et écologique est perçue, est bien perçue par les hommes, mais par contre, ils ont assez peu les moyens de l'analyser. Et ce qui se passe, c'est qu'émergent de temps en temps des alternatives locales qui sont différentes selon les contextes et les enjeux. Je vais vous en raconter une sur laquelle on a un petit peu travaillé. Donc on est toujours dans la région de Tuléar, on est un petit peu au nord de Tuléar, sur une région qui s'appelle le plateau de Vinette, où là existait une exploitation tenue par un colon d'origine franco-grecque, je pense, si je me rappelle bien, qui avait fait venir des gens de l'extrême sud de Madagascar pour travailler sur sa plantation. Dans les années 60, bon, le pays devient indépendant, le type s'en va ou est chassé, enfin, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Et les gens restent sur la plantation et se joint à ce groupe donc de migrants Tandjoui, se joint à un autre groupe de migrants qui, eux, ont été employés par la société qui a fait construire la route, la Nationale 7, qui va de Tananarive à Tuléar. Ça aussi, c'est un phénomène fréquent. Les grands travaux de route, routiers notamment, ont amené des migrants dans des zones auxquelles ils n'habitaient pas, et ils s'y sont ensuite sédentarisés. Donc les migrants se sédentarisent avec d'autres Tandjoui, commencent à exploiter, surexploiter, je veux dire, le milieu. Assez rapidement, il y a eu des problèmes, les gens sont tombés malades, le bétail est tombé malade, donc les gens ont commencé à discuter entre eux, à dire, écoute, c'est peut-être parce qu'on n'a pas... En fait, l'autorisation, maintenant que le blanc est parti, on n'a pas l'autorisation d'être sur ces terres-là. Ce sont c'est un autre groupe ethnique qui s'appelle les Machikur, qui étaient là avant, donc il faut qu'on les retrouve. Donc ils ont essayé de retrouver les descendants, ou en tout cas ceux qui prétendaient être les descendants des premiers occupants de ce secteur, pour faire les cérémonies traditionnelles qui leur légitimeraient, qui leur donneraient le droit de s'y installer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, donc je vous passe les détails. Et en fait, en ultime recours, ce qui s'est passé, c'est que les trois familles les plus anciennement installées parmi ces migrants de l'extrême sud sont retournées dans leur territoire d'origine. Ils ont pris... Alors, les tombeaux dans le sud, maintenant, sont faits en béton, mais avant, c'était des amas de pierres, de petites pierres. Chacun, donc de trois familles différentes, hein, on va dire pour faire simple, chacun a pris une pierre... du plus ancien de personnes mâles de leur lignage qui étaient décédées sur leur territoire d'origine, donc une pierre du tombeau. Ils sont allés voir une personne qui était possédée par un esprit censé être un esprit de la forêt, même s'il n'y en a plus, dans l'extrême sud de Madagascar, et ont ramené cette personne en terre de migration. Cette personne arrivée en terre de migration pendant un certain temps, il ne s'est rien passé, puis effectivement, enfin, comme tout se passe toujours bien, elle a été effectivement possédée par des esprits de la forêt. Donc, si vous voulez, ils ont transporté les esprits de leur territoire d'origine dans leur terre de migration. Ils ont recolonisé symboliquement la forêt en réinstaurant des tabous de comportement qui existaient chez eux. Ils ont pu le faire parce que d'une part, ils étaient les familles les plus anciennement installées, et d'autre part, puisque dès qu'il y a eu des décès, alors je vous décris ça, mais ça dure une période de 20 ans à peu près. Dès qu'il y a eu des décès, ils ont utilisé les pierres de leur territoire d'origine pour construire les tombeaux en terre de migration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça marche à l'envers quasiment du cycle de la vie. Donc, quand on vit en principe, ça commence par le cordon ombilical et le placenta. Pour les garçons, il y a la circoncision. Et ensuite, le jour viendra où on va passer dans l'au-delà. Alors que là, ça marche inverse. Ça fonctionne. Le schéma, si vous voulez, fonctionne d'une manière inversée pour l'appropriation du territoire. Je vais mettre mes tombeaux en premier. Je vais faire mes circoncisions après. Et à la fin, les dernières choses que je vais mettre, c'est les placentas ou les cordons ombilicaux dans certains arbres du territoire. voyez ? Mais les gens se sont réappropriés en étant eux-mêmes conscients, parce qu'il y avait eu des décès, parce qu'il y avait eu du bétail qui était malade, etc., etc. Mais les gens étaient conscients eux-mêmes qu'ils avaient une pression trop forte sur la ressource, et le seul moyen, dans une terre qui n'était pas la leur, et où ils étaient d'une manière illégitime, de se réapproprier, d'avoir de nouveau un contrôle collectif de cette gestion des ressources, c'était de la reconnaître d'une manière symbolique et d'avoir le contrôle sur ces esprits. Voilà. Donc, à Madagascar, d'une manière générale, la forêt qui était avant est devenue désacralisée, c'est une source de revenus. Et au fur et à mesure qu'elle disparaît, on observe une reconstruction de territoires et de groupes sociaux, avec ces innovations socio-cérémonielles dont je viens de vous parler, des émergences de stratégies de mise en valeur à long terme d'un milieu, au centre de transformation radicale des rapports entre société et un milieu, donc la forêt. C'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile à suivre, mais c'est en même temps fascinant. Donc la forêt dans tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on assiste à une chute libre de la biodiversité, une réduction mais épouvantable de la biodiversité à Madagascar. Un patrimoine qui disparaît, mais en même temps certains qui restent et qui existent, avec des forêts reliques et des forêts sacrées. Donc j'ai pas le temps de vous en parler, mais j'en connais plusieurs sur lesquelles j'ai travaillé, je suis arrivé avec les gens. Une gestion par les populations locales de ce qu'on appelle les corridors écologiques, c'est-à-dire les zones entre les parcs nationaux. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de marcher. Et puis des initiatives encore isolées, mais qui sont porteuses d'un certain espoir en ce qui concerne la gestion du milieu. Et on sait qu'il y a eu les travaux, notamment de Francis Allais, le radeau des Cimes, toutes ces choses-là qui ont été faites à Madagascar. Voilà, je vous remercie. J'étais un petit peu long, un peu confus par moment peut-être, mais je reste à votre disposition pour vous répondre sur ces sujets sur Madagascar ou d'autres à votre convenance. Merci beaucoup.